Je dirais juste un mot sur les événements tragiques que viennent de connaître nos amis belges, pour que nous y pensions, et je n'en dirai pas plus. Je passe tout de suite la parole à Marie-Josée Latour pour son exposé, un très beau titre, qui est, me semble-t-il, un jeu de mots, un marbre généalogique. Alors nous t'écoutons.
Merci Marc. Alors, vas-y. C'est bon ? Tout le monde m'entend ?
Vas-y, commence à parler comme ça.
Ok, je m'entends. Alors, premier problème, par où commencer ? Par où commencer alors que je voudrais évoquer ceux qui ne se laissent pas raconter ? Vous m'entendez ?
Oui.
Je voudrais donc évoquer ceux qui ne se laissent pas raconter, qui peut prendre la tonalité que Marc vient d'évoquer. Deuxième problème, avec le langage, l'histoire du par-lettre a déjà toujours commencé. Avant même qu'il n'ait quelque chose à dire, le par-lettre en question. On parle toujours après, ainsi à ce séminaire. Troisième problème, la parole est toujours en retard sur le réel. Comment dès lors rendre compte de l'effet réel d'une psychanalyse ? Alors, je vais essayer de déplier un peu les problèmes. Premier point que j'ai intitulé « Coquetterie ou subversion ». Je vais donc commencer simplement par le premier des signifiants du titre du séminaire, après nos collègues qui se sont également demandé comment parler de l'histoire après que Lacan l'ait écrit avec un Y. Historiser avec un Y est donc, si vous me permettez cette pointe, une écriture précisément datée. Cette dysorthographie qui constelle aujourd'hui nombre de nos communications est relativement tardive dans l'enseignement de Lacan. Ses occurrences et dérivés s'y comptent sur les doigts d'une main, il me semble. Je rappelle qu'on la trouve, ce que tout le monde sait ici, en 1976, donc dans la préface que Lacan écrit pour l'édition anglaise de son séminaire sur les quatre concepts fondamentaux, et quelques mois ou semaines plus tard, dans la leçon du 14 décembre 1976, dans le séminaire L'insuccès. Le succès, justement, de cette belle trouvaille est quelque peu paradoxal, me semble-t-il, car, finalement, cette trouvaille, on la trouve, justement, à l'endroit même où Lacan s'éloigne quelque peu de la définition freudienne de l'inconscient. Qu'il avait établi, par exemple, Lacan en 1953 comme ce chapitre censuré de mon histoire. Sœur Jean-Jacques. Je voulais être discret. Alors que dans la préface à l'édition anglaise du séminaire, Lacan justement met la lumière plutôt sur le réel de l'inconscient. Donc Lacan recourt à une ancienne écriture de l'histoire, comme il l'a fait l'année précédente pour le symptôme. Ancienne écriture, puisqu'à regarder le dictionnaire, il y a effectivement, en 1145, à un ou deux ans près, cette écriture d'histoire avec un Y est attestée. Alors, est-ce là une petite coquetterie de Lacan ? Histoire de mettre son grain de sel pour situer dans la psychanalyse ce qui, depuis qu'elle existe, a changé. Bon. De l'histoire, dans le texte donc, de la préface, on passe à historiser. Historiser avec un Y qui, bien sûr, consonne avec hystériser. Mais situer ce qui, dans la psychanalyse, a changé est un enjeu crucial qui rend incontournable la question de ce qui peut pousser quiconque, surtout après une analyse, je cite Lacan, hein, à s'historiser de lui-même. Lacan, donc, n'hésite pas à recourir ici à la dyslexie joycienne pour un enjeu fondamental quant à la formation de l'analyste. Éclairer cette historisation qui vaut comme autorisation est donc autre chose, me semble-t-il, que la seule mise en perspective du récit de son analyse, et concerne autre chose que le dit, que les dits, hein, puisque histoire avec un Y, ça ne s'entend pas. Il faut, pour faire la différence, il faut le voir écrit. Alors, est-ce que cette écriture, est-ce que c'est l'index d'un bouleversement, du bouleversement que peut produire une analyse sur le concept d'histoire, cher aux philosophes? Lacan, il me semble, laisse entendre cela dans le séminaire « L'insuccès » de l'une Bévus et l'amour. C'est un bouleversement historique. Alors, si je l'ai écrit, c'est parce que justement, c'est pour faire entendre ce qu'on n'entend pas, pour que vous puissiez lire ce qu'on n'entend pas. C'est que Lacan donc convoque donc l'histoire, via l'histoire, pardon, il convoque via l'histoire la topologie, hein, le tore, pour rendre compte de la façon dont l'histoire du sujet névrosé prend corps et de la façon dont le récit analytique peut toucher au réel qui le motive. Donc Lacan convoque une discipline, la topologie, qui ne se laisse pas aisément raconter et qui ne se prête pas au récit. Donc, j'en viens à mon deuxième point que j'ai intitulé « Commencer par ne plus choisir ». À notre époque de storytelling ou de communication narrative, il importe de rappeler, il me semble, comment, dès l'invention du dispositif analytique, la règle fondamentale est venue troubler l'ordre de la narration. Et comment une psychanalyse est autre chose que le retour du passé, autre chose que raconter une histoire, fût-ce celle que l'on s'imagine être la sienne. Pour accueillir la surprise de l'inconscient, la règle est celle de la non-préparation. L'invitation est faite de commencer par ne plus choisir. Je trouve que c'est une très belle formulation de Lacan dès 1936, dans un texte qui s'appelle « Au-delà du principe de réalité » que vous trouvez dans les écrits. Donc, commencez par ne plus choisir, dites ce qui vous vient, sans souci de chronologie, d'originalité ou de pertinence logique. Donc, Lacan rappelle après Freud. Et comment justement Freud, en présumant une signification à tout rebut de la vie mentale, à tout déchet, hein, de la parole, comment donc Freud a posé l'incohérence comme condition de l'expérience analytique? Il n'est pas dès lors tant question de restituer la chaîne des souvenirs et des fragments disjoints qui adviennent dans le discours de l'analysant, que de libérer le texte des chaînes du récit, de l'ordre requis par la narration. Donc, on peut, il me semble, situer ici une première affinité entre la littérature et la psychanalyse, mais aussi une première disjonction. L'affinité, c'est effectivement que l'une et l'autre des disciplines se posent la question de comment dire ce dont il s'agit, ce dont il est question. Mais la disjonction, c'est que pour la psychanalyse, il n'y a pas, a priori, de, si l'on en croit la règle fondamentale, de souci de forme. Si la forme, c'est vraiment un enjeu pour la littérature, ça ne l'est pas pour la psychanalyse, en tout cas, pas dans les mêmes termes que ceux de la littérature. Pourtant, justement, l'éthique de la psychanalyse est celle du bien-dire. Mais qu'est-ce que c'est que ce bien-dire ? qui n'est pas une mise en mots, une mise en forme esthétique des mots, des dits. Donc c'est une question très importante qui nécessiterait un travail entier. Donc je vais juste retenir que là où finalement on fait l'expérience réitérée de l'échec de la parole à dire le réel, on pourrait, et c'est ce qui se passe pour une part, susciter une espèce de récit interminable, genre exercice de style, alors que justement le bien dire exige un terme. Raymond Queneau, justement, le même qui a écrit Exercice de style, a mis autrement, il me semble, au travail de son écriture, l'expérience de la cure analytique et de la sienne. Il l'a fait dans un texte qui s'appelle « Chêne et chien », selon l'étymologie un peu loufoque de son nom, Queneau. Donc, dans ce texte qui est où la question de la forme est très importante, puisqu'il s'agit d'un roman en vers, c'est quand même pas si fréquent. Donc, première partie du texte, il raconte sa vie, comme on dit, et la deuxième partie du texte commence par « Je me mis sur un divan et me mis à raconter ma vie, ce que je croyais être ma vie », etc. Pour ceux qui ont envie d'aller relire ce texte qui est... Bon, alors justement, l'irruption des formations de l'inconscient, les manifestations intempestives et incalculables de cet hôte que je ne me sais pas être, viennent troubler le récit. Et si le récit de Queneau nous intéresse justement, c'est qu'il témoigne de la difficulté et de l'effort requis pour donner une forme narrative à ce trouble. À ce fauteur de troubles qu'est l'inconscient. Heureux trouble, bien sûr, que celui qui a la capacité d'élargir. Alors, Queneau, si on suit son texte, dit que l'éclair, finalement, viendra non pas de ce que le sujet dit, mais de ce qu'il le dise, et qui plus est, qu'il le lui dise à l'analyste. Donc, dans une analyse, l'analysant est invité à un récit qui part, bien sûr, du dit. Pour le disant, en mesurer la détermination et quelque peu s'en désassujettir. C'est le propos de Freud qui, au début de la psychanalyse, pose le recours à l'histoire comme Hérodote l'a fait. Il s'agit de mener l'enquête. Confère les études sur l'hystérie, et l'enquête, c'est le premier sens du mot grec histoire. Dimitra confirmera. C'est-à-dire l'enquête, ce qui lie le chemin et le récit, l'ode et l'odyssée. Chacun sait ici que c'est sur le mode du roman policier que vient d'inventer Edgar Poe que Freud. Oui, mais la forme moderne du roman policier. D'accord. Mais Sophocle n'avait pas du pain quand même. Bon, allez, c'est notre débat. Donc, oui. Alors, bon, alors tu me permettras, Marc, quand même. C'est donc sur ce mode-là du roman policier, on va laisser tomber Edgar Poe, alors que Freud va construire ses récits cliniques. Deuxième point affine entre la littérature et la psychanalyse, l'inconscient requiert une narration particulière qui met en son cœur l'énigme. L'historisation dont parle Lacan n'est pas, à mon avis, seulement le récit de cette enquête. Il faudra encore y faire la place à ce qui, de l'énigme, est irrésolu. Alors, troisième point, de l'inénarrable. Logiquement, une analyse devrait à un moment rejoindre dans l'exercice même de la parole, au sein du dispositif, le sans-recours radical qui l'a motivé. Faire l'expérience d'un récit à l'épreuve d'une part du transfert et d'autre part du réel de l'inconscient devrait changer le rapport du sujet au récit. Récit dont finalement il n'est pas l'auteur, alors même qu'il est seul à pouvoir en soutenir résolument le dire. Alors si historiser, ce n'est ni faire de l'histoire, ni encore moins faire des histoires, si s'historiser de soi-même n'est ni s'autoriser de sa névrose, ni s'autoriser d'une mise en récit de sa propre cure, s'agit-il alors, dans l'historisation, de rendre compte de ce que l'on apprend à raconter à un psychanalyste l'impossible mise en mots du réel? Nicolas va donner de la chair à tout ça tout à l'heure. Au langage, on ne coupe pas. On ne saurait donc trouver de narration à l'extérieur du langage. Et je ne peux rien savoir, comme nous le dit Lacan dans la télévision, je ne peux rien savoir qui n'est la structure du langage. Un récit est toujours un mixte d'imaginaire et de symbolique. Ainsi, admettra-t-on dans l'analyse ce qui s'articule dans le sommeil, à condition d'en passer par le procès de son récit. Et Lacan fait remarquer que accepter dans l'analyse ce qui s'articule dans le sommeil, c'est supposer que la structure du récit ne succombe pas au sommeil. Il dit ça de la psychanalyse dans ses rapports avec la réalité. Et j'ai trouvé cette notation un peu étrange, c'est pour ça que je l'ai extraite, parce que si l'on en croit l'usage fait des histoires à dormir debout, ça ne va pas de soi, hein, que la structure du récit ne succombe pas au sommeil. Alors, c'est par la parole en tout cas, et seulement par la parole, que l'inénarrable a chance d'être cerné. Le rêve est ici paradigmatique. Il ne nous parvient, le rêve, que par le récit nécessairement lacunaire que l'on en fait. Raconter un rêve, c'est faire l'épreuve de ne pas y arriver, éprouvant ce qui, dans la langue, résiste à sa mise en mots, objecte tant à la grammaire qu'à la syntaxe. Difficile tâche que la repicturalisation de ce qui s'est dépigmenté dès que pointe l'aube de la mise au jour de la parole. Tout le monde a fait cette expérience-là. L'analysant partage donc là encore quelque chose avec le romancier, l'exigence d'une narration. Il faut le raconter, le rêve. Et ce faisant, l'exigence d'une certaine cohérence, en contradiction donc avec la règle fondamentale. Cette narration, dans le cas du rêve, signera donc son échec. C'est dire déjà la proximité du rêve avec le réel, impossible à dire. Prendre le rêve comme ce qui permet de cerner un bout de réel est un paradoxe devant lequel Freud n'a pas reculé. En effet, le rêve répondant du désir de dormir est une façon de sursoir au moment du matin, au réveil, à ce qui du réel nous réveille. Dès lors, si le psychanalyste invite l'analysant à raconter son rêve, ce n'est pas tant pour la valeur de ce qu'il raconte que pour mettre en évidence le trou que le rêve recouvre, mais que, le couvrant, il signale. Encore y aura-t-il à considérer le rêve non pas comme le dernier mot d'une expérience ineffable, mais comme le fit Freud, le point même où l'expérience surgit du non-connu, de l'impossible à reconnaître. Freud nomme, vous le savez, l'ombilique du rêve, ce point où le rêve est insondable, ce point hors ligne où s'arrête le sens, ce point cuspidal où cesse toute possibilité de sens. Ce réel qui ne peut être dit et qui est à la racine même du langage exclut celui qui parle de sa propre origine. Lacan souligne l'audace de Freud d'en avoir trouvé la marque dans le rêve. C'est en quelque sorte la malédiction de la représentation qui nous exclut de ce qu'elle nous représente. Alors, comme on l'apprend en lisant le livre de Barbara Klosowski sur les Valpiri, le peuple des rêveurs du désert australien, les rêves ne suffisent pas en tant que tels pour enrichir leur patrimoine. Bon, je vous renvoie à ce livre qui est une somme. Cette fautive narration intitulée Les rêveurs du désert, peuple Valpiri d'Australie. Donc, cette fautive narration, toujours singulière, nécessite l'assentiment des autres pour que ça fasse partie de leur patrimoine. Alors, pourrions-nous dire que soumettre le récit de son analyse aux conditions de transmissibilité du discours serait une déclinaison de ce que Lacan met au principe de la passe comme, j'ouvre les guillemets, mise à l'épreuve de l'historisation de l'analyse. À condition, me permettrai-je d'ajouter, de ne pas perdre de vue la prétention d'un récit aussi nécessaire que vaine à relayer le réel. C'est ce que Michel Bousséroux appellerait marcher droit sur un cheveu. Marcher droit sur un cheveu, qui est le sous-titre de son prochain livre. Alors j'en viens à mon dernier point, que j'ai intitulé « Sans arbre généalogique », et je me suis rendu compte après coup, mais donc ça c'est l'inconscient qui a travaillé, que c'était le titre d'un chapitre du livre de Colette Solaire, « Lacan, lecteur de Joyce ». Alors, une psychanalyse devrait amener à se poser la question de ce qu'est un rapport à la parole qui tente de se tenir à la hauteur du réel. Nous aurons présent à l'esprit qu'un rapport à la parole n'est pas tout à fait, à mon avis, la même chose qu'un rapport au récit. Il y a des modalités du rapport à la parole qui posent d'emblée ce qui ne se laisse pas chroniquer. C'est pas française. Tel cet enfant qui s'adresse ainsi à la psychologue qui le reçoit. La psychologue que je remercie, Geneviève Rochette, qui a amené cette situation au collège clinique. Alors il s'adresse ainsi à elle. La chouette effraie, Aro, Barcelone, Zoo, télé. Aro, c'est le nom d'un petit village du Haute-Pyrénées, tout près de Saint-Lary-Soulan, où peut-être certains d'entre vous sont allés skier. Voilà, donc la chouette effraie, Aro, Barcelone, Zoo, télé. Dans cette séquence verbale, où les signifiants se succèdent sans liaison, apparaît le gouffre qu'il y a entre chaque signifiant, et que le discours se charge habituellement de tempérer, voire de réduire avec force verbe, adverbe, conjonction de coordination, ponctuation, bref, tout ce qui fait pont, c'est-à-dire sens, et qui n'est pas bien sûr complètement absent de la tâche analytique, hein, puisqu'il y a quand même toute une partie d'une psychanalyse qui consiste à établir en quelque sorte le texte. Cet enfant donc qui sait parler, mais qui a beaucoup de réticence à utiliser spontanément la parole, fait apparaître clairement, non pas un récit, mais une adresse. Ces mots, il les lui dit à ma collègue, mais ces mots, qu'en faire ? La pente structurelle du fantasme est à l'histoire. Nicolas va très très bien le déplier là, tout à l'heure. Aussi, je lui mets la pression. Mais non. Alors, en tout cas, qu'il y ait là, dans ces 5 ou 6 signifiants, matière à récit et l'hypothèse de notre collègue. C'est ce qu'elle pense, en tout cas, qu'elle a à faire, de faire en sorte que ça devienne un récit, et c'est ce qu'elle fait, associant dans un premier temps, sans succès, sur les voyages scolaires que ce jeune garçon a évoqué précédemment, mais ça ne donne rien. Elle risque alors une question. Elle risque parce qu'elle a très bien repéré que poser des questions n'était vraiment pas la façon efficace de s'adresser à ce petit garçon, mais elle risque. À la télévision, tu as vu un reportage sur un zoo avec des chouettes effraies. Et à sa grande stupéfaction, satisfaction, il se met alors à lui parler de cette émission qu'il regarde très régulièrement, etc., etc. Alors, si d'un certain point de vue, on pourrait se réjouir que cet enfant consente à un usage commun de la parole, ce n'est peut-être pas tout à fait là la visée du discours analytique. Peut-être en sommes-nous un peu plus proches lorsque ce même enfant, un peu plus tard, montre un pot de pâte à modeler qu'il a mis plusieurs séances à vider et conclut « ça fait du bien quand il n'y a rien dedans ». C'est ça. Nous faisons donc le plus souvent l'hypothèse qu'une histoire nous porte au monde. Est-ce que c'est ça que Lacan appelle la généalogie du désir ? Il me semble. Mais il n'en est pas ainsi pour chaque parlant. Quelqu'un l'a magistralement écrit, James Joyce. Colette Solaire, relisant Joyce après Lacan, nous permet de prendre la mesure de ce sans histoire qu'est un dire. Aucune explication ne réduira le mystère de Finnegan's Wake. Lacan donc trouve chez Joyce l'occasion de poser l'inconscient comme fait de la langue hors sens touchant le corps. La matérialité de la langue est insue. Et prenant à bras le corps cet insuccès, Joyce réalise ce tour de force de se faire représenter par l'énigme même. C'est une historisation originale, au sens strict, sans arbre généalogique. Joyce se place au commencement. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le souci de ce que j'évoquais au début, par où commencer, et patati et patata. Il n'est pas dans le souci de sa généalogie. Au cours de son enseignement, je termine, Lacan fait référence à plusieurs reprises à l'arbre généalogique. J'avais dans un premier temps recensé tout ça, j'ai laissé tomber tout, j'en ai gardé une, celle de 1973 dans sa note italienne. Texte exigeant à plus d'un titre. Il valide dans ce texte la question de ce qu'est un analyste qui ne s'autorise que de lui-même. Et il ajoute, donc on revient à l'historisation du début, il ajoute à condition qu'il n'y ait là que de l'analyste. Je vais aller très vite, là où encore Colette Solaire a remarquablement déplié cette note, la note italienne, et nous en facilite grandement la lecture. C'est publié par nos collègues de Rome. Nul besoin de savoir, donc dit Lacan dans la note italienne, nul besoin du savoir pour la transmission de l'arbre généalogique. Mais du coup, ce n'est pas de lui que l'on pourra attendre un gain de savoir. Ce n'est pas de l'arbre généalogique qu'on pourra attendre ça. Celui ou celle, le gars ou la garce, comme il dit dans le texte, élégamment, qui se préoccupe de l'arbre généalogique, de la transmission, n'aura pas le temps de contribuer au savoir, dit-il. Or, la condition de la survie du discours analytique, et d'ailleurs d'un discours, c'est cette contribution au savoir. Alors, contribuer au savoir, on saisit tout de suite que ce n'est pas tout à fait la même chose que raconter, qu'historiser. Et que la psychanalyse garde une place dans la civilisation ne passe pas simplement donc par ce qui passe d'une génération à l'autre, par ce qui passe d'un psychanalyste à l'autre. Contribuer au savoir passe par l'écriture. Il faudrait pouvoir le démontrer, et donc il faut que je m'arrête bientôt. Donc je ne suis pas en mesure de le démontrer comme ça, parce que c'est une autre question que celle de l'écriture. Que s'agit-il d'écrire ? En tout cas, il faudrait peut-être penser à écrire quelque chose comme un texte qui se tiendrait au bord du récit. Je termine donc avec un mot sur mon titre, un marbre généalogique que je dois à un poète. Jean Zéboulon, qui a écrit un très joli recueil qui s'intitule « À une passante et à tout ce qui ne passe pas ». Alors, il m'est venu sans réfléchir. Quand, je crois que c'est Claire qui m'a écrit, ou Agnès, je ne sais plus. Quand j'ai vu le titre du séminaire, ce qui est tombé, c'est ça. J'ai agité, historisé, raconté, écrire l'histoire. Et ce qui m'est venu immédiatement, c'est un marbre généalogique. J'ai pris acte de ce qui m'était venu. Si l'inconscient, donc, est la façon qu'a eu le sujet d'être imprégné par le langage, c'est bien à l'occasion d'un rêve ou d'un autre débris de parole que l'on pourra côtoyer cet ancêtre que nous pourrions aussi bien appeler la part hantée. Soit, pour le dire sur une autre, d'une autre façon, dit par un écrivain que j'aime beaucoup, tout le monde le sait, Philippe Forest, qui parle, lui, de la trace nue et ininterprétable de toute origine. On peut dire que le récit est un représent. Quel que soit son style, naïf ou sentimental, comme dirait Orhan Pamuk, petit clin d'œil à Vicky, quel que soit son style, donc laboureur sédentaire revenant sur le même sillon, ou navigateur commerçant ramenant de ses voyages aussi lointains qu'ils fussent toujours les mêmes babioles, les formations de l'inconscient ramènent le sujet toujours sur les mêmes ravinements. Celui de la rencontre avec les autres qui lui ont appris à parler, c'est le côté roman, si on peut dire. Et l'autre ravinement, c'est celui de la rencontre des mots avec le corps. Que la rencontre des mots avec le corps qui a été tracé sans qu'aucun sujet ne le sache. En effet, on ne choisit pas la forme de cette rencontre. C'est le côté marbre. On peut même pendant des années se battre contre elle. Mais si l'on veut que notre façon de parler de la psychanalyse participe à agrandir les ressources du symbolique et de l'imaginaire, comme Lacan l'appelle de ses voeux dans la note italienne, on voit bien qu'elle requiert, cette façon de parler, une manière qui soit autre chose qu'un éloge funèbre, ce qui est toujours un petit peu un récit de fait, hein, puisque c'est un représent. Ainsi, bon, je terminais sur une question, mais qui peut-être... c'est pas la peine, je vais m'arrêter là. Donc, je terminais en disant, le récit convoqué par la passe serait-il, c'est une question, davantage celui d'une histoire qui commence que celui d'une histoire qui s'achève ?